C'est moi qui vais vous apporter un peu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce culte. C'est un culte de rentrée. Ça fait longtemps que ces choses qui sont dans mon cœur et que je brûlais de pouvoir les partager. Je suis reconnaissant que le Seigneur me donne ce temps. Est-ce qu'on peut simplement prier pour cela? Alléluia, Papa. Ben, Seigneur, on se remet vraiment simplement encore devant toi. Merci que tu es au milieu de nous. Merci que tu es un Dieu de fête, un Dieu de gloire. Tu es notre héros et tu es un Dieu de force, un Dieu de vaillance. Tu es un Dieu guerrier, un Dieu, mais aussi un Dieu tendre, un Dieu aimant, un Dieu proche, plein de compassion et de douceur et de tendresse, et on te loue. Je te demande vraiment grâce. Tu me donnes la grâce dans ce que j'ai à partager, Seigneur, que tu me donnes la facilité, la clarté. Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Ah, il est trop grand. Est-ce que je peux le monter, David, celui-là encore là? Voilà, en fait, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce sont des passages de la parole que j'avais reçus il y a des années. Et c'était des passages assez forts, et je me disais, Seigneur, si tu veux que je les prenne pour moi, si c'est des choses que tu me dis à moi personnellement, je te prie que tu me les confirmes par ta parole. Et chaque passage, j'ai reçu un autre verset qui parlait de ce passage. Et c'est comme si effectivement le Seigneur me permettait et me disait, c'est pour toi, prends-le. Et dernièrement, c'est depuis à peu près peut-être septembre, octobre, j'avais comme l'impression que le Seigneur, que j'avais vraiment envie de le partager avec l'Église et de dire c'est pour chacun, c'est pour vous. Et il y a eu des choses que Richard Reis a dites qui me disaient que c'était effectivement le temps de le partager. Et vous allez voir un peu tout ce qui en découle. Et le premier passage que j'aimerais prendre, c'est dans Psaume 2. C'est un passage bien sûr connu, hein. On n'a même presque pas besoin de prendre dans la Bible. Au verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, ma fille. Je t'ai engendré aujourd'hui. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Tu es ma fille, je t'ai engendrée aujourd'hui. Donne-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. C'est un passage à savoir par cœur. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. L'Éternel te dit, tu es mon fils. Tu es ma fille. Est-ce que ton cœur peut saisir cette parole et déjà dire, l'Éternel me dit, tu es mon fils. Tu es ma fille. Je t'ai engendrée aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et alors, peut-être de vous demander comment il l'a confirmé. Et effectivement, le Seigneur m'a donné un verset dans Acte 13. Acte 13, au verset 33. Verset 32, on commence. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils ». Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est une parole que je peux prendre. Tu es mon fils, tu es ma fille. Comme le disait déjà Vito ce matin, comme on l'a déjà répété, c'est quelque chose que le Seigneur veut nous prendre, que ce soit gravé dans nos cœurs, que ça pénètre profondément. Le Seigneur nous le répète et va nous le répéter jusqu'à ce que cette identité fasse partie de nous et que plus rien ne puisse nous l'enlever. Ça ne se voit pas quand tu te regardes dans la glace. Tu ne vois pas un fils de Dieu, tu vois un homme ou une femme. Mais le Seigneur voit son fils et sa fille. En tant qu'homme, en tant que femme, tu es fils et fille de Dieu. Tu n'es pas fils moins que le fils de Dieu. Il n'y a pas des grands-fils et des petits-fils, il y a les fils. Et vous savez, souvent, on a écrit dans la parole en français le fils avec un F majuscule. Est-ce que je peux vous dire qu'en grec, il n'y a pas de majuscule ? Il n'y a pas de différence. Notre apprentissage du français et de la Bible en tant que tel nous ont appris la différence entre le Fils de Dieu et les fils de Dieu. Mais elle n'existe pas, la différence. Tu es fils de Dieu au même titre que le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, tu as le droit de l'écrire avec un petit F. Jésus est fils de Dieu avec un petit F. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu homme comme toi. Il a porté le même corps que toi, le même visage que toi. S'il se regardait dans la glace, peut-être qu'il ne se trouvait pas nécessairement beau. Peut-être qu'il se disait, waouh, Jésus, t'aurais pu être plus beau que ça. Son nez peut-être un peu rond, Hein, je ne sais pas moi, les oreilles peut-être écartées. Il a peut-être les lèvres un peu grosses. Il aimait peut-être pas nécessairement, mais est-ce que j'en sais rien moi, on ne nous dit pas trop. Mais c'est sûr, en tout cas, il aurait pu, en tant qu'homme, comme toi, le même homme que toi, fils de Dieu avec un petit F. Et tu sais que toi, tu as le droit de t'appeler fils de Dieu avec un grand F. Tu es fils et fille de Dieu avec un grand F, parce que tu es devenu comme lui. Tu es devenu comme Jésus. Tu es du fils de roi, fils de roi. Tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Il n'y a pas de différence. Parce que s'il y avait une différence, le roi des rois aurait raté son œuvre. Parce qu'il n'a pas voulu faire de la hiérarchie chez lui. Il a voulu créer une famille. Il a voulu avoir des bien-aimés à ses côtés. Et il t'a créé, il t'a engendré. Et je vais vous apprendre un nouveau mot aujourd'hui encore. Vous savez que le roi des rois nous a adoptés. Qu'est-ce que c'est que l'adoption ? Ça signifie que quelqu'un qui existait déjà et qui d'un coup passe d'un statut à un autre. Peut-être qu'il n'avait pas de père, pas de mère. Et d'un coup, du jour au lendemain, il se retrouve avec un papa. Il est adopté, il est devenu fils ou fille. Vous vous rappelez ce que Richard Hess disait ? Si Bill Gates devenait ton papa, combien ça changerait ta vie ? Si Bill Gates te reconnaissait comme fils et t'adoptait, le statut, la différence de statut qui deviendrait la tienne en un jour, en une heure, tu deviendrais l'un des hommes ou les femmes les plus riches de la terre. Tu serais reconnu. Quand tu sortirais de ta maison, tu aurais une immense voiture de 10 mètres de long qui t'attendrait avec un chauffeur et peut-être une piscine à l'intérieur. Tu aurais des maisons dans toutes les nations du monde. Quand tu viendrais, tout le monde se courberait devant toi. Le roi des rois t'a adopté. Tu as changé de statut. Ce n'est plus la même chose. Ce que tu savais de toi jusqu'à à ta nouvelle naissance a été changé. Il y a quelque chose qui existait avant et qui est connu de tout le monde. Il y a quelque chose qui est nouveau et que tu ne connais pas parfaitement, mais que tu vas découvrir au fur et à mesure et que le Seigneur veut révéler sur ta vie. Il veut révéler par la parole, par des songes, par les enseignements, par ce que tu entends, par ce que tu vis. Il va te révéler de plus en plus qu'est-ce que ça signifie que tu es fils et fille de roi. Amen. Et une vision grande, une vision large. Accepte que le Seigneur n'a pas envie que tu restes petit dans la poussière. Ce n'est pas sa vision. Il a envie que tu sois avec lui en règne. Et alors un autre, qu'est-ce qui accompagne l'adoption ? C'est la deuxième partie, tu es mon fils, je t'ai engendré. Je t'ai donné naissance. C'est comme si tu étais repassé par l'état de petit bébé. Tu étais devenu un petit embryon dans le sein du Père. Tu as grandi. Il t'a donné naissance. Comme si quelque part tu n'existais pas avant et que maintenant tu existes. Il t'a donné naissance. Tu es né de lui. Dans sa maison, tu es né du roi. Tu es fils de Dieu. Alors tu es d'une part adopté, parce qu'effectivement tu avais déjà une préexistence, mais tu as été reconnu comme fils et fille. Et en même temps, tu as été engendré. Les deux réalités sont vraies. Alors je vous propose un nouveau mot, c'est l'adoptance. Tu as été adopté et en même temps, tu as connu une nouvelle naissance. C'est l'adoptance. Tu es adopté et tu es né. Tu es fils de roi, fille de roi, à plein temps. Tu es complètement dedans. C'est fait, c'est une réalité. La seule chose qui manque, c'est la pleine révélation de cette réalité. Tu as tout reçu en tant que fils, comme nous rappelait Anne. Tout est là. Tout est dans ton caractère. Tout est dans ta nature. Tout est dans ta personnalité. Tout est fait. Tout est là déjà, en potentiel, en puissance et en nature et en germe. La seule chose qui te manque, c'est la révélation. La Bible nous dit que la nature attend la révélation. Mais déjà toi, tu l'attends cette révélation. Tu ne l'as pas pleinement. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à prier pour que cette révélation descende pleinement dans nos vies, que nous sommes fils et filles de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Le plus grand challenge qui est devant nous, c'est d'avoir cette pleine révélation de qu'est-ce que c'est qu'être fils et fille de Dieu et d'y rentrer à plein temps, à pleine part, à pleine puissance, à mettre la puissance à fond. Les 100 watts, les 1000 watts. Amen. Deuxième passage, psaume 89. Je dirais que le psaume 2 touchait à mon identité, qui je suis, fils de Dieu, avec puissance. Psaume 89, verset 4 déjà. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. surtout le début, j'ai fait alliance avec mon élu. Et ensuite, verset 20, « Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, une jeune fille, mon élu. » C'est une autre version, j'ai un élu. « J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai le oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Sa force s'élèvera et sa corne s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Il m'invoquera et dira, tu es mon père, mon papa, mon Dieu, le rocher de mon salut. » Amen. Alors quand j'ai lu ça, je dis, bon, ok, Seigneur. C'était pas les choses ensemble, hein, c'était à des temps différents. Ces passages me parlaient. Et ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est trop grand. C'est trop fort. Ça fait des années en arrière. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me le dis, j'ai besoin que tu me le confirmes. Et le Seigneur m'a redonné un verset. Et comme par hasard, je vous propose dans Actes 13, 34. C'était dans Actes 13 aussi, en fait. Que Dieu ait ressuscité Jésus des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je te donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont éternelles. Je te donnerai les grâces saintes que j'ai promises à David. » Qu'est-ce qu'il a promis à David ? Psaume 89. « Tu es mon héros. » Tu es mon élu. Ma droite sera avec toi, ma main sera sur toi. Je t'accompagnerai. On ne pourra pas te faire du mal. Je te délivrerai de ceux qui te haïssent. Je mettrai ta main sur les fleuves. Je t'accorderai ces bénédictions que j'ai promises à David. Et ce passage, en fait, dans Actes 13, 34, ne fait pas référence à Psaume 89, il fait référence à Isaïe 55. Et j'aimerais qu'on aille le chercher. Isaïe 55. Est-ce que vous connaissez Isaïe 55 ? Qu'est-ce qu'il dit le début ? Isaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez à moi, buvez, mangez. Venez acheter et manger. Venez acheter du lait, du vin, sans argent, sans rien peser, sans rien payer, etc. Verset 3. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Qui est-ce qui se sent concerné par ce passage ? Qui lève la main ? Qui est-ce qui pense que Dieu l'appelle et qui dit, viens ? Tu peux venir à moi, viens écouter, viens. J'ai envie que vous leviez la main, ceux qui se sentent concernés. Dieu t'appelle, viens à moi. C'est pour toi le vin, c'est pour toi le lait. Pourquoi tu fais seulement des choses pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travailles-tu seulement pour ce qui ne rassasie moi ? Écoute-moi, tu vas manger ce qui est bon. Et ton âme va se délecter de mets succulents. Prête l'oreille, toi qui m'entends, toi. Prête-moi l'oreille, j'ai à te parler. C'est à toi que je parle. Écoute et ton âme va vivre. Et vous savez que ce passage, je le connaissais bien et que je ne connaissais même pas la suite. Regardez la suite. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs et mes grâces envers David. Oh, j'avais jamais vu qu'il y avait un quelconque lien entre ces deux choses. J'avais jamais lu ce passage, je ne le connaissais pas. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Alors vous êtes tous, on est conviés à un repas. Venez, venez manger. Venez, c'est pour vous, j'ai tout fait, j'ai tout accompli. Viens manger, écoute, afin que ton âme vive. Écoute, écoute, j'ai plein de choses à te dire. Tu sais que je vais traiter avec toi une alliance éternelle. Et tu sais que je vais faire avec toi la même alliance éternelle que j'ai faite avec David. Et que tout ce que j'ai promis à David, je te le promets à toi. Parce que je veux te donner les grâces saintes que j'ai promises à David. Tu ne crois pas ce que je te dis ? Retourne à Actes 13, 34. Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Je l'ai dit dans ma parole et je te le repromets dans le Nouveau Testament. Je te donnerai les grâces que j'ai promises à David. Et alors si vous faites les parallèles, quand il dit « Je te donnerai mes grâces que j'ai promises à David », si tu regardes dans la parallèle, ça va où ? Ça revient au psaume 89. Quelles sont les grâces que j'ai promises à David ? Ben, tu retournes au psaume 89. Tu parles là dans une vision à ton bien-aimé. Tu es son bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint. Je t'ai oint. Je t'ai trouvé toi, mon héros. Je t'ai trouvé toi, mon élu. Je t'ai oint. Ma main te soutiendra, mon bras te fortifiera. Je te promets que ces grâces saintes que j'ai promises à David, je te les donne. Elles sont à toi. L'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera pas. J'écraserai devant toi tes adversaires. Je frapperai ceux qui te haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec toi. Et ta force va s'élever par mon nom. Je mettrai ta main sur la mer et ta droite sur les fleuves. Et tu m'invoqueras et tu diras, tu es mon papa, mon père. Tu es mon Dieu et le rocher de mon salut. Amen. Amen. Troisième passage. Ésaïe 49. Au verset 5. Vous connaissez le psaume 40, Ésaïe 45, 49. Je vais lire quelques versets avant. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Dès que tu es né, le Seigneur t'a appelé. Dès que tu es né, le Seigneur a prononcé ton nom. Il a prononcé ton nom terrestre et il a prononcé ton nom spirituel. Et il a proclamé sur ta vie. Et il a dit, c'est toi. Je ne connais pas encore toujours ton nom spirituel. Même nous, nous ne le connaissons pas nous-mêmes, notre propre nom spirituel. Mais tu en possèdes un qui définit ton identité, ta nature devant Dieu. Et le Seigneur veut te révéler ton nom spirituel de plus en plus. Il va te révéler qui tu es, comment tu t'appelles. Et le monde va savoir comment tu t'appelles. Tu penses que ton nom est inconnu des hommes ? Peut-être. Premièrement, il est connu de Dieu. Deuxièmement, il te donne un nom qu'il va faire connaître aux autres. Pas parce que tu veux que tu es élevé, mais parce qu'il veut que tu saches que tu es bien-aimé. Ton nom n'est pas au-dessus des autres, mais ton nom est bien-aimé. Le Seigneur aime prononcer ton nom. Il le prononce avec tendresse et amour. Ton nom est précieux devant Dieu. Tous les matins, le Seigneur prononce ton nom. Il se lève et se rappelle ton nom. Il aime ton nom. Ton nom fait chanter ses oreilles. Il t'a appelé dès ta sortie des entrailles maternelles. Tu n'étais encore qu'un petit bébé criard, que le Seigneur était amoureux de toi. Le Seigneur est amoureux de toi. Son nom, il le prononce avec amour, jour après jour. Il t'a vu grandir, physiquement et spirituellement. Et il est avec toi depuis tous ces temps-là. Il a rendu semblable, si j'avais sauté un peu, verset 3, « Tu es mon serviteur en qui je me glorifierai. Mon droit est auprès de l'Éternel. » Verset 5, « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance. » Il t'a non seulement donné un nom, mais il a commencé à te former. Il t'a formé dès ta naissance. Ta forme ne te plaît pas ? C'est parce que tu ne vois pas tout de la forme que Dieu t'a donnée. Tu as une forme que tu es appelé à découvrir petit à petit. Quelle est la forme que Dieu t'a donnée ? Quel est le nom que Dieu te donne ? Quelle est la forme que Dieu te donne ? Tu n'auras plus besoin de regarder la forme des autres. La forme des autres n'est pas ce qui te compte pour toi. Ne regarde pas la forme des autres, ne regarde pas le nom des autres. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important comment les autres sont. Chacun a une forme qui lui est propre. Dieu donne une forme à chacun. Il le forme à sa façon, avec douceur, avec amour et avec tendresse. Dieu te forme. Il te donne une forme qui t'est propre et qui réjouit le cœur de Dieu et qui réjouira le cœur des hommes. Verset 5, je continue. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Bonne nouvelle ce matin pour toi. Tu as de l'honneur aux yeux de Dieu. Tu es honoré. Tu es honoré. Le Seigneur t'honore. Le monde t'abaisse. Le roi des rois t'honore. Viens t'asseoir à ma droite. Viens t'asseoir à mes côtés. Vous vous rappelez le repas ? Celui qui s'élève, il est venu tout en haut de la table et le Seigneur l'a dit, « Mon ami, je te descends, ce n'est pas ta place. » Celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui se savait humble devant Dieu, mais pas qui se descendait lui-même, mais simplement qui reconnaissait le roi des rois comme étant son Dieu, et qui ne cherchait pas à se glorifier aux yeux des autres, le Seigneur l'a dit, « Mon ami, viens t'asseoir à mes côtés, monte plus haut, viens. » Et le Seigneur te dit, « Viens. » Viens, monte plus haut avec moi. Tu es honoré à mes yeux. Et ton Dieu est ta force. Verset 6. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. C'est peu. C'est peu. Il y a déjà un premier appel. Mais c'est peu. Il y a encore plus. Il y a plus. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi par l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est un horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et se lèveront. Des princes et se prosterneront. À cause de l'Éternel qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a choisi. Vous avez vu à chaque fois, à cause du Saint d'Israël, avant qu'il te glorifie. Là, c'est celui qui t'a choisi, qui est fidèle. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage, je l'ai pris là et je dis, Seigneur, si tu me parles, si tu veux me le dire, il faut que tu me le confirmes par ta parole. Et j'ai reçu un verset. Vous savez où il est, à votre avis? Acte 13. Acte 13. Acte 13, 47. Verset 46, je commence. Paul et Barnabas dirent avec assurance aux Juifs, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, vers les nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. J'étais établi pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vincent, le Seigneur t'établit pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Tous, le Seigneur t'établit. Il me l'a dit à moi parce qu'il nous le dit à tous. C'est dans sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Il a dit, parce qu'ainsi l'a ordonné le Seigneur à Jésus. Jésus, les autres, écartez-vous là. Place, c'est Jésus, viens là devant. Jésus, je t'établis pour être la lumière des nations. Est-ce que c'est ça que Paul a dit? Regardez. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. Il a pris la parole qui s'adressait à Jésus. Parce que c'était clair, Isaïe 49, c'est d'abord Jésus, c'est certain. Mais nous sommes dans Jésus. Jésus ne vit plus jamais rien. Tout seul. Rien ne l'intéresse, tout seul. Il veut être en bonne compagnie. Et sa bonne compagnie, c'est toi. Tu es celui qu'il a envie que tu sois avec lui. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais c'est ça. Il ne supporte pas d'être sans toi. Dans tout ce qu'il vit, il veut le vivre avec toi. Et Paul, il s'est arrogé la parole. Et il avait le droit, il a dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Et si c'est nous, c'est nous tous. J'ai été établi pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Merci David et Angela, parce que vous avez obéi à l'appel. Vous êtes venus à l'extrémité. Il y en a d'autres qui iront à des extrémités. Mais les nations, ça commence bien sûr à Guebwiller, ou à Saint-Louis, ou ailleurs, dans le Haut-Rhin, l'Alsace, la France. C'est un ordre géographique, mais ce n'est pas un ordre chronologique. Le Seigneur peut t'envoyer d'un coup à un endroit, d'un coup à un autre. Il te fait témoigner ici, il te fait témoigner là. Tu dois être la lumière ici, puis tu es la lumière ici, là. Tu es lumière partout où tu es. Partout où tu es, partout où tu vas, tu es lumière des nations. Partout où tu vas, tu portes salut. Partout où tu es. Amen. Car ainsi te l'a ordonné le Seigneur. Alléluia, Jésus. Vous savez quel était le titre de Jésus quand il était dans Jérusalem? Qu'est-ce que lui disaient les gens? Vous vous rappelez ce mot? Fils de David. Fils de David. Moi, ça me... Je ne comprenais jamais pourquoi les gens disaient « fils de David ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites attendaient le rejeton de David. Parce qu'il y avait des promesses dans la parole qui disaient « David aura un rejeton ». Qu'est-ce que c'est David? David, c'était un roi qui a reçu une promesse, une alliance éternelle. Et Dieu, quelle était la promesse originale? Je te donnerai une maison. Qu'est-ce que c'est une maison ? C'est une dynastie. David, je te donne une dynastie royale. Je te donne une clé royale. Tu seras une maison pour les nations, une maison royale. De toi sortiront des rois. Il y aura des rois dans ta descendance. Et d'ailleurs, il y aura toujours des rois. Ça a des implications physiques, mais bon, je n'entrerai pas là-dedans, même moi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une implication spirituelle. Spirituellement, il y a une descendance royale qui descend de David. Et il n'y avait plus de roi à un moment donné. Sédécia, ça a été coupé, il n'y avait plus de roi. Et les promesses disaient qu'il y aurait de nouveau un fils dans la maison de David qui régnerait. Et les Israélites attendaient le fameux fils qui allait arriver. Il doit y avoir un fils dans la maison royale. On n'a plus de roi chez David, mais il y a un roi, un fils qui va arriver. Il y a un fils dans la maison de David qui va arriver. Il sera roi. Et quand Jésus est arrivé, ils ont reconnu en Jésus ce descendant de David qu'ils attendaient tant, qui était appelé à régner. Et ils l'ont appelé fils de David. Fils de David. Et vous savez que ce que Jésus est, tu l'es aussi. Et qu'est-ce que Jésus t'a promis ? Toutes les grâces saintes que j'ai promises à David sont à toi. Tu es un descendant de David. Tu es fils de David. Tu fais partie d'une maison royale. Qu'est-ce qu'elle dit la parole dans 1 Pierre 2, 8, je crois. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Tu fais partie de la maison de David. Le Seigneur a dit dans Acte 13, je relèverai la maison de David, le tabernacle de David. Je relèverai cette maison fumante. Il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de dynastie. Qu'est-ce que je ferai ? Je relèverai la dynastie de David. Il y aura de nouveau des rois de la descendance de David. Tu es de sang royal. Tu es fils de roi. Tu as Abraham pour père et tu as David pour père. Tu es de sang royal. Tu es un roi et une reine dans la maison du Père. Tu fais partie de la maison de David. Tu as reçu les promesses de David. Amen. C'est quelque chose qui doit commencer à nous nourrir de plus en plus. Notre identité. Donc j'ai parlé donc de ces trois passages. Et ces trois passages me ramènent à le premier, j'ai dit, je pense que ça me parle d'identité. Fils de Dieu. Mon deuxième passage me parlait d'un héritage. Héritier de promesses. Héritier de tout ce que Dieu veut faire pour moi. Me couvrir et me protéger. Et le troisième me parle de destinée. J'ai un appel, j'ai une destinée. Je suis appelé à entrer dans quelque chose que Dieu a préparé pour moi, être une lumière pour les nations, de la façon dont Dieu le voudra pour ma vie. Amen. Identité, héritage, destinée. Et vous vous rappelez ce que Manuela a dit à la fin de l'année ? Les paroles qu'ont reçues Fabienne Ponce et d'autres pour cette année, identité, héritage, destinée, c'était des mots de Dieu pour nous. Et j'aimerais, juste en quelques, rapidement encore, découper ce qu'il y avait dans l'identité, dans ces différents passages. Qu'est-ce qu'il y a dans l'identité ? Tu es fils, fille de Dieu. Tu es un héros. Vous vous rappelez ce que Richard Reyes disait ? Qu'il y en a qui auront des rêves de super-héros. Il y aura qui auront des rêves de super-héros. Nous sommes appelés à être des héros, des super-héros. L'Éternel Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. L'Éternel est un héros. Réveillez les héros. L'Éternel se réveille comme un héros parce qu'il veut combattre pour les siens. Si l'Éternel ton Dieu est un héros, tu es un héros avec lui. Tu es une héroïne. Amen. Vaillant héros, lève-toi, va avec la force que tu as. Vaillant héros, lève-toi, va à la force que tu as. Est-ce que le Seigneur se moque de toi ou est-ce qu'il dit vrai ? Est-ce que le Seigneur est un blagueur, un rigoleur dans ce qu'il dit ou est-ce qu'il est réel ? Tu es ce héros que Dieu cherche. Il va parler dans une vision à son bien-aimé. Psaume 89, il va parler dans des visions à ses bien-aimés. Et il va te dire qui tu es. Ça va descendre dans ton cœur. Qu'est-ce que tu es encore ? Tu es un ? Il parle à son bien-aimé. Il dit que j'ai choisi quelqu'un. C'est à cause de celui que j'ai choisi. C'est mon élu en qui je prends plaisir. Tu es un élu. Vous vous rappelez ce que Richard Reis disait encore ? Le Seigneur t'appelle un élu et il vote pour toi. Mais il faut que toi, tu votes pour toi. Il faut que tu votes pour toi. Tu es un élu. Tu es quelqu'un qui a gagné les élections. Tu as gagné les élections. Tu es quelqu'un en bien en vue. Tu es quelqu'un de royal. Tu es quelqu'un de précieux et de valeur. Nous, on a fait une échelle de valeur. On a regardé qui était le plus haut, après qui c'est qui est en dessous, ensuite qui y avait, et puis après il y avait encore d'autres au milieu, puis après il y en avait d'autres qui étaient commencés à être passables, puis après il y avait les nuls. Et souvent on se classe dans une catégorie, peu importe laquelle. Et le Seigneur ne regarde pas les choses comme ça. Il a fait de toi l'un des siens. Et ça suffit. Tu as tout. Tu es son fils, sa fille, son héros, son élu, de race royale, de race davidique. Tu fais partie d'une maison royale. Tu fais partie d'un des serviteurs. Il l'a appelé aussi son serviteur. Serviteur, c'est quelque chose de précieux et d'important. Un intendant royal, c'est un serviteur. Un gestionnaire sur qui on peut compter, c'est un serviteur. Quelqu'un qui gère bien les affaires du roi. C'était des titres honorifiques. Les échansons, par exemple, en Égypte, c'était les hommes les plus hauts de l'État. Tu es son serviteur. Ça veut dire quelqu'un en qui Dieu a confiance pour te confier les clés de la maison. Te dire, je dois m'en aller quelque temps. Tu vas t'occuper de ma maison. Tu vas t'occuper de mes affaires. Je te fais confiance et je te donne tout. Tu as les clés de ma maison. Tu peux faire ce que tu veux dans ma maison, parce que je sais que tu vas bien t'en occuper. Tu es son serviteur, sa servante. Tu as un héritage. En tant que fils de roi, tu es héritier du royaume. Le frère nous a dit que le royaume est là. Tu es héritier du royaume. Tu es fils. Un fils dans une dynastie, il part dans la vie avec tout. Le compte en banque garni. Il a des maisons. Il a des terres. Il a des entreprises. Il a tout. En tant que fils de Dieu, tout est à toi. La parole nous le dit. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Amen. En tant qu'élu, en tant que celui qui a gagné l'élection, tu as reçu une autorité et une capacité de gouverner. Ça t'appartient. Il y a une capacité d'accomplir une responsabilité que Dieu a déposée dans ta vie et que Dieu t'a donnée et qu'il va révéler cette année. Je pense que c'est vraiment une parole pour cette année parce que Dieu va nous faire exploser. Mais il ne va pas nous faire exploser avec nos capacités simplement naturelles, bien qu'il va les utiliser. Mais il va révéler les capacités qu'il a déposées dans ta vie, comment il t'a formé, comment il t'a conçu, comment il t'a pensé et qu'est-ce qu'il veut faire avec toi et comment il veut t'utiliser. Avec tes capacités physiques et avec tes capacités spirituelles. Tu es un héros. Un héros, c'est un vaillant guerrier. Tu as reçu de la force. Tu as reçu de la capacité à combattre. Tu as reçu de la capacité à gagner des victoires. Tu as reçu une capacité à faire fuir l'ennemi. Pas tout seul. Hein ? J'avais pas reçu cette pensée avant. C'est en priant pour Vincent, cette compagnie de héros. Nous faisons tous partie d'une compagnie de héros. Nous sommes les uns avec les autres. Et c'est une compagnie de héros et d'héroïnes. Amen. Quand tu regardes l'autre, tu vois en lui ce héros du roi des rois. Ce héros bien-aimé de l'Éternel, choisi par Dieu. Dieu est avec toi. Il te protège, il combat pour toi. Il est plein d'amour pour toi et d'encouragement. Il a parlé à son bien-aimé. Tu es son bien-aimé. Ça fait partie de l'héritage, de ton identité. Tu es un bien-aimé. Destinée. Quelle est la destinée? Quand vous relisez tous ces passages, ils sont tous reliés au destin des nations. Psaume 2, donne-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Psaume 89, il est relié à l'Ésaïe 55. Je l'ai établi comme chef et dominateur des peuples. Tu appelleras des nations que tu ne connaisses pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Amen. Ta destinée, c'est les nations. Les nations, c'est ce qui est autour de toi. C'est tes voisins, c'est ta ville et c'est les nations. Je l'ai dit tout à l'heure. Ésaïe 49, tu es appelé à être une lumière des nations. Chaque passage te parle de destinée. Il te parle d'identité, il te parle de ton héritage, il te parle de ta destinée. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous confirmés dans Acte 13. Et vous vous rappelez ce que Richard Hayes a dit sur Acte 13? Qu'est-ce qu'il a dit sur Acte 13? Acte 13, c'est quand les prophètes et les enseignants, ils étaient réunis, ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont jeûné. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et qu'est-ce qu'ils ont été appelés? Acte 13 est la porte vers les nations occidentales. Acte 13 est pour les nations horizontales. Tout avant, il s'adressait aux nations du bassin méditerranéen, du bassin autour d'Israël. Et à partir d'Acte 13, ça va vers les nations. Et c'est par Acte 13 que l'Occident a été touché par l'Évangile. L'Occident, c'est nous. Acte 13 est la porte ouverte pour ton salut à toi. C'est à cause d'Acte 13, parce que Paul et Barnabas ont été envoyés vers les nations du monde occidental, que tu as reçu l'Évangile et que tu as été touché par le roi des rois et que tu es son enfant. Acte 13 est pour toi. Avec les promesses qu'il contient, elles sont pour toi. Et elles te parlent que tu es un héros du roi des rois, que tu es son fils bien-aimé, que tu es appelé à être une lumière pour ceux qui sont autour de toi, à apporter du salut à ceux qui sont autour de toi, à apporter de la guérison, à apporter de la délivrance, à être un témoin. Tu es un témoin pour les peuples, tu es un chef pour les peuples, tu es un chef pour les endroits où Dieu te place, quelqu'un qui commande. Dominateur des peuples, c'est comme celui qui commande, qui établit. Alléluia, Seigneur. Zacharie 12:8, vers les temps de la fin, le Seigneur promet une promesse de retour. Et il dit qu'à un moment donné, il y aura une guerre. Et dans cette guerre, le faible sera comme David. Est-ce que tu te trouves parmi les faibles? Tu es appelé à devenir comme David. Saül a chassé ses 1000. Notre force humaine, elle est comme Saül. Elle chasse ses 1000. Mais notre force spirituelle, c'est d'être comme David. Et David a chassé ses 10 000. Et tu es appelé à commencer à rentrer dans ta nature de David, de fils de David, et de chasser tes 10 000. Jusqu'à présent, tu n'as chassé que tes 1000. Et peut-être même un peu moins. Ça, ce n'est pas tellement ce qui compte. Pourquoi? Parce que le Seigneur va tout multiplier. Et tu vas chasser tes 10 000 en tant que fils de David. Le fait parmi eux sera comme David, et la maison de David, elle sera comme... Alors là, vous n'allez pas en croire vos oreilles. La maison de David sera comme Dieu. Et les descendants de David, c'est ton héritage. Tu es appelé à devenir comme Dieu lui-même dans la bataille. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. J'ai fini là. Je pense que c'est des paroles que nous devons garder dans notre cœur. C'est le Seigneur que quelque chose que Dieu nous dit dans cette année. Et la parole que j'avais pendant la louange, réveillez les héros. Réveillez les héros, les jeunes. Vous êtes notre symbole des héros. Et nous sommes avec vous. Et vous nous tirez, vous allez aller de l'avant comme des héros. Vous avez jusqu'à présent chassé vos 1000, maintenant vous allez commencer à chasser vos 10 000. Vous avez combattu petit, mais vous avez été fidèle. Et le Seigneur va vous donner beaucoup. Mais il est avec vous pour accomplir ce qu'il a promis. Vous êtes ses bien-aimés. Et il va marcher avec vous et vous donner de marcher d'entrer dans votre héritage. Et nous irons avec, parce qu'aucun de nous n'est mis de côté. Aucun de nous n'est oublié, quel que soit notre âge, quelle que soit la place où Dieu nous a placés, nous sommes ses héros. Nous sommes ses élus et ses bien-aimés. Et nous sommes à accomplir les exploits de l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits dans ta vie. Dieu va faire des exploits dans ta vie. C'est une année d'exploits. C'est une année d'exploits. C'est l'année des héros. Je proclame l'année des héros. Parce que l'Éternel est un héros qui se lève et qui combat ses ennemis. Et il a dit, combattez avec moi. Et il fait de nous des héros. Amen. Alléluia, papa. Alléluia, papa. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te loue simplement pour ces paroles. Que tes paroles accomplissent les rêves dans nos vies. Seigneur, tu as dit que tu n'envoies aucune parole qui n'accomplisse son effet. Je te prie maintenant que ta parole soit comme une graine qui accomplisse son œuvre en nous et qui grandisse, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen.